Évangile selon Matthieu, chapitre 23. Discours de Jésus aux foules et aux disciples, versets 1 à 12.
Lecture de la parole. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples, disant: Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, car ils élargissent leurs phylactères et donnent plus de largeur aux franges de leurs vêtements. Et ils aiment la première place dans les repas et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans les places publiques, et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne soyez pas appelés « Rabbi », car un seul est votre conducteur, le Christ, et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés « conducteurs », car un seul est votre conducteur, le Christ. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.
Lecture de l'étude. Le triste état des chefs du peuple ayant été démontré, Jésus éprouve le besoin de mettre en garde les foules et les disciples contre leur manière d'agir, pour qu'ils distinguent la marche des scribes et des pharisiens d'avec la parole qu'ils enseignaient. Leur respect extérieur pour la parole divine faisait prendre en considération leur marche. C'est bien ce qui devrait toujours avoir lieu, mais il y avait contradiction absolue entre leur conduite et la loi qu'ils plaçaient devant le peuple. Celle-ci demeurait cependant la même dans sa perfection divine. Et si ceux qui la présentaient ne s'y conformaient pas, ceux qui les écoutaient devaient faire ce qu'ils disaient et ne pas imiter leurs actes. Quel contraste entre la conduite de ces hommes et celle de l'apôtre Paul qui pouvait dire « Ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu en moi, faites ces choses » Philippiens 4, verset 9. Jésus dit « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse ». C'est-à-dire qu'ils enseignent comme lui. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter, c'est-à-dire se montrent très exigeants pour l'accomplissement de la loi, et les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Ceux qui prêchent sans mettre en pratique ce qu'ils disent, sont exigeants envers les autres, parce qu'ils ne connaissent pas la difficulté qu'il y a à faire céder sa volonté propre devant celle de Dieu, surtout au temps où la loi était donnée à l'homme dans la chair dont la volonté ne se soumet pas à celle de Dieu. Ces gens-là faisaient devant les hommes des œuvres qui leur donnaient l'apparence de la piété, mais il n'y avait dans leur cœur que l'orgueil et la recherche de leur propre satisfaction. Ils élargissaient leurs phylactères. Il note en bas de page bandes de parchemins sur lesquels étaient écrits des passages de la loi et que l'on portait sur le bras gauche ou sur le front. Voulant en cela pratiquer l'enseignement de Deutéronome 6, verset 8 et 11, verset 18, mais sans que le cœur fût touché par ces paroles.
Et tu les liras comme un signe sur ta main et elles te seront pour frontaux entre les yeux. Et mettez ces miennes paroles dans votre cœur et dans votre âme et liez-les pour signes sur vos mains et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Partout ils cherchaient les premières places, les salutations en public. Ils aimaient à être appelés rabbi, titre honorifique qui signifie maître, dans le sens d'un grade obtenu, tandis que Jésus dit « Mais vous, ne soyez pas appelés rabbi ». Car un seul est votre conducteur, le Christ, et vous, vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Toutes ces exhortations mettent en garde contre l'esprit clérical. le caractère dominant du clergé est de se placer entre Dieu et les âmes et de rechercher l'honneur qui revient à Dieu seul. Cela conduit à l'hypocrisie, car pour s'attirer la faveur des hommes, il faut chercher à paraître ce que l'on n'est pas. Que Dieu nous garde d'un tel esprit. Jésus termine cette partie de son discours en indiquant le vrai caractère du serviteur. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous le savons, l'expression parfaite du vrai serviteur a été manifestée en Christ, le véritable conducteur. Il s'est abaissé pour servir, comme nous l'avons vu au chapitre 20, verset 28. C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé. Quel contraste avec ce qu'il signale chez les scribes et les pharisiens au verset 6 à 8. Puissions-nous tous, petits et grands, être pénétrés de l'Esprit de Christ dans son service, ne cherchant jamais à paraître, mais toujours à servir, en nous effaçant naturellement et en attendant que Dieu montre son appréciation de notre marche et de notre service.
Cette fois malheur, c'est 13 à 39.
Lecture de la parole. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent d'entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, quiconque aura juré par le temple, ce n'est rien, mais quiconque aura juré par l'or du temple est obligé. Fous et aveugles, car lequel est le plus grand, ou l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et quiconque aura juré par l'autel, ce n'est rien, et quiconque aura juré par le don qui est dessus est obligé. Aveugles, car lequel est le plus grand, ou le don, ou l'autel qui sanctifie le don? Celui donc qui jure par l'autel et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là. Guides aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites, « Si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes, en sorte que vous êtes témoins contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous, comblez la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne ? C'est pourquoi, voici, moi je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Lecture de l'étude. Seigneur s'adresse maintenant aux scribes et aux pharisiens hypocrites en prononçant sept fois malheur sur leurs différentes manières d'agir et en dénonçant les divers traits de leur iniquité. Le premier malheur, verset 13, est attiré sur eux par le fait qu'ils fermaient le royaume des cieux devant les hommes. Non seulement ils n'y entraient pas eux-mêmes, mais ils ne permettaient pas aux autres d'y entrer. Tout le long du ministère de Jésus, ils s'étaient opposés à lui, parce qu'ils voulaient garder leur position au milieu du peuple dans l'ancien système juif, où leur orgueil naturel trouvait sa satisfaction, tandis que, pour entrer dans le royaume, il fallait reconnaître l'autorité de Christ et devenir comme les petits enfants. Au lieu de cela, ils cherchaient à gagner des prosélytes, c'est-à-dire à faire adopter, en tout ou en partie, la religion juive à des étrangers, mais loin d'être un moyen de salut pour eux, cela ne faisait qu'augmenter leur culpabilité. À cause de cela, un second malheur est prononcé sur eux. Dans les versets 16 à 22, Jésus leur reproche d'avoir établi certaines manières de jurer qui avaient plus de valeur dans un cas que dans un autre. Il faisait méconnaître ce qui avait une valeur réelle aux yeux de Dieu et, par conséquent, détournait de lui pour fixer la pensée sur la matière, ce qui a lieu pour toute religion de forme. Ils attiraient par là sur eux un troisième malheur. La quatrième fois que Jésus prononce un malheur, c'est en dénonçant l'hypocrisie avec laquelle les pharisiens observaient strictement certains détails de la loi. Ils payaient la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, choses sans grande importance, mais qui les faisaient passer aux yeux des hommes pour de fidèles observateurs de la loi. En revanche, ils négligeaient ce qui était le plus important, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Pour les pratiquer, il faut un état d'âme exercé par la parole, qui permettent de discerner ce qui est juste envers Dieu et d'être miséricordieuse envers ses semblables, tandis qu'on ne peut s'acquitter de ses actes purement matériels sans avoir affaire avec Dieu et sans qu'il en coûte rien. Non que l'on doive faire abstraction des détails de la loi. Jésus dit « Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser celles-là ». Ces guides aveugles coulaient ainsi le moucheron et avalaient le chameau. Scrupuleux pour de petites choses en présence de leurs frères, ils étaient sans conscience envers Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Nous avons à prendre garde de leur ressembler, car notre nature nous porte facilement à agir selon leurs principes. Les deux malheurs que Jésus prononce ensuite contre eux sont en rapport avec l'hypocrisie qui les faisait paraître justes aux hommes. Ils étaient comme des coupes et des plats nettoyés au dehors, mais pleins, au-dedans, de rapine et d'intempérance. La rapine, c'est l'action de s'approprier ce qui ne vous appartient pas en abusant de la position que l'on occupe, et l'intempérance est le manque de sobriété à tous égards. Ils auraient dû nettoyer leur cœur de ces choses afin que la pureté qui paraissait au dehors vint du dedans et fut vrai. Le Seigneur les compare aussi à des sépulcres blanchis. En Orient, on blanchit souvent les sépulcres pour leur donner une belle apparence, mais cela ne change rien à l'intérieur qui est rempli d'ossements et d'impuretés. De même, ces hypocrites, malgré leur extérieur de pureté, n'en avaient pas moins leur cœur rempli de tout ce qu'il y a de plus souillé aux yeux de Dieu, ce dont la mort est l'image. Souvenons-nous tous que Dieu veut de la réalité dans le cœur et que personne ne peut le tromper par l'apparence. À quoi sert de paraître devant les hommes ce que l'on n'est pas devant Dieu? C'est devant Dieu qu'il faudra être manifesté un jour. 2 Corinthiens 5, verset 10.
Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal.
Le dernier malheur prononcé sur les scribes et les pharisiens l'est parce qu'ils bâtissaient des tombeaux aux prophètes que leurs pères avaient tués, sans être dans un meilleur état qu'eux, quoi qu'ils eussent dit, si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes. On peut considérer comme une action très pieuse le fait de bâtir des monuments aux prophètes, mis à mort dans le temps où Israël était idolâtre. Et ces prophètes, en rappelant le peuple à la loi, annoncer la venue de Christ. Acte 7, verset 52.
Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant vous, vous avez livré et mis à mort.
Et maintenant que Christ était au milieu d'eux, ils ne l'écoutaient pas plus que leur père n'avait prêté l'oreille aux prophètes. Ils portaient les mêmes caractères que leurs pères et comblaient leurs mesures. Aussi le Seigneur allait les mettre à l'épreuve pour qu'ils manifestassent s'ils valaient mieux que leurs ancêtres. C'est pourquoi, leur dit-il, voici, moi, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous en tuerez, vous en crucifierez, vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, en sorte que vienne sur vous tout le sang juste versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. La patience dont Dieu avait usée envers son peuple, et par ce fait envers l'homme, est bien grande depuis les jours où le premier juste avait été mis à mort. Au travers de diverses économies, Dieu avait tout essayé avant d'exécuter le jugement. Et de quelque manière que Dieu ait agi, l'homme, au lieu de se repentir, a manifesté envers lui une opposition parvenue à son apogée, lorsqu'il a mis à mort son Fils venu en grâce. Comme dit le Seigneur en Jean 15, versets 22-24, « Ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Maintenant, ils ont vu et haï, et moi et mon Père. » Il allait encore leur envoyer des prophètes, des sages et des scribes. Jésus désigne ainsi les apôtres qui viendraient après son départ, et ils allaient les traiter comme leur Père avait traité les prophètes. Ils feraient preuve d'un état pire encore, parce qu'ils jouissaient de privilèges plus grands et n'avaient retiré aucun enseignement des voies de Dieu envers le peuple. Ainsi la responsabilité accumulée sur les hommes durant tout le temps de la patience de Dieu serait frappée par les jugements qui fondraient sur eux. C'est pourquoi Jésus dit, « En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. » La même solennelle vérité pour les mêmes raisons est proclamée à l'égard de Babylone, l'Église responsable, en Apocalypse 18, verset 24.
Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre.
En annonçant le jugement sur Israël, Jésus est ému de compassion envers Jérusalem, centre de ce système de méchanceté qui allait subir les jugements de Dieu. Son amour avait travaillé depuis des siècles, mais toujours en vain, pour ramener ce peuple rebelle. Jésus, qui est l'Éternel de l'Ancien Testament, avait déjà dit, lors de la transportation du peuple à Babylone, qu'il avait envoyé vers eux par ses messagers, se levant de bonne heure et en voyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure, de Chroniques 36, verset 15. Ici, à cette heure solennelle, il s'écrie « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Quelle parole solennelle sortie de la bouche de celui qui était venu en amour à ce peuple bien-aimé. Mais la dureté de l'homme avait constamment refoulé cet amour dedans du cœur de Jésus, et l'empêchait de le manifester plus longtemps à son peuple selon la chair. Ce même amour allait conduire Jésus à la croix, et là, par son sacrifice, rendre possible, sur le pied de la grâce, les bénédictions que les Juifs refusaient. Lorsque Jésus apparaîtra en gloire, le résidu souffrant l'appellera et dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David », selon le psaume 118, verset 26. C'est pourquoi Jésus dit « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ».